Ramuncho, première partie, chapitre 17. Le lendemain dimanche, ils étaient allés religieusement, tous ensemble, entendre une des messes du clair matin, pour pouvoir entrer à César le jour même, aussitôt après la grande partie de paume. Or, c'était ce retour, plus encore que le jeu, qui intéressait Gracieuse et Raymond, car, suivant leur espérance, Panchica et sa mère resteraient à Euribiag. Eux s'en iraient, serrés l'un contre l'autre, dans la très petite voiture des Dechari, sous la surveillance indulgente et légère d'Arochcoa. 5 ou 6 heures de voyage, tous trois seuls, par les routes de printemps, sous les verdures nouvelles, avec des haltes amusantes, dans des villages inconnus. Dès 11 heures du matin, ce beau dimanche, les abords de la place s'encombrèrent de montagnards, descendus de tous les sommets, accourus de tous les sauvages hameaux d'alentour. C'était une partie internationale, 3 joueurs de France contre 3 d'Espagne, et dans l'assistance, les basques espagnols dominaient. On y voyait même quelques larges sombreros, des vestes et des guêtres du vieux temps. Les juges des deux nations, désignés par le sort, se saluèrent avec une courtoisie surannée, et la partie s'engagea, dans un grand silence d'attente, sous cet accablant soleil qui gênait les joueurs malgré leurs bérets rabattus en visière sur leurs yeux. Ramuncho, bientôt, et après lui à Rochecoa, furent acclamés comme des triomphateurs. Et on regardait ces deux petites étrangères si attentives au premier rang, si jolies aussi, avec leurs élégants corsages roses, et on disait « Ce sont leurs promises, aux deux beaux joueurs !» Alors Gracieuse, qui entendait tout, se sentait très fière de son jeune fiancé. Midi. Il jouait depuis bientôt 1 heure. Le vieux mur, au faîte arrondi comme une coupole, se fendillait de sécheresse et de chaleur sous son badigeon d'ocre jaune. Les grandes masses pyrénéennes, plus voisines encore ici qu'à César, plus écrasantes et plus hautes, dominaient de partout ces petits groupes humains qui s'agitaient dans un repli profond de leurs flancs. Et le soleil tombait d'aplomb, sur les lourds bérets des hommes, sur les têtes nues des femmes, chauffant les cerveaux, grandissant les enthousiasmes. La foule passionnée donnait de la voix et les pelotes bondissaient qu'on commença à teinter doucement l'Angélus. Alors un vieil homme, fort couturé, tout basané, qui attendait ce signal, emboucha son clairon, son ancien clairon des zouaves d'Afrique, et sonna au chant. Et on vit se lever toutes les femmes qui s'étaient assises. Tous les bérets tombèrent, découvrant des chevelures noires, blondes ou blanches. Et le peuple entier fit le signe de la croix, tandis que les joueurs, aux poitrines et au front ruisselant, s'étaient immobilisés au plus ardent de la partie, et demeuraient recueillis, la tête inclinée vers la terre. Au coup de 2 heures, le jeu ayant fini glorieusement pour les Français, Arochecoa et Ramuncho montèrent dans leur petite voiture, reconduits et clamés par tous les jeunes d'Eribiag. Puis Gracieuse prit place entre eux deux, et ils partirent pour leur longue route charmante, les poches garnies de l'or qu'ils venaient de gagner, ivres de joie, de bruit et de soleil. Et Ramuncho, qui gardait à sa moustache le goût du baiser d'hier, avait envie, en s'en allant, de leur crier tous « Cette petite, que vous voyez si jolie, est à moi !» « Ses lèvres sont à moi, je les tenais hier entre les miennes, et je les y reprendrai encore ce soir. » Ils partirent et tout de suite retrouvèrent le silence, dans les vallées ombreuses aux parois garnies de digitales et de fougères. Roulés pendant des heures sur les petites routes pyrénéennes, changés de place presque tous les jours, parcourir le Pays basque en tous sens, aller d'un village à l'autre, appelés ici par une fête, là par une aventure de frontière, c'était maintenant la vie de Ramuncho, la vie errante que le jeu de paume lui faisait pendant ses journées et la contrebande pendant ses nuits. Des montées, des descentes, au milieu d'un monotone déploiement de verdure, des bois de chênes et de hêtres, presque inviolés et demeurés tels que jadis, au siècle tranquille. Quand venait à passer quelque logis antique, égaré dans ses solitudes d'arbres, il ralentissait pour s'amuser à lire, au-dessus de la porte, la traditionnelle légende inscrite dans le granit, « Ave Maria ». En l'an 1600 ou en l'an 1500, un tel de tel village a bâti cette maison pour y vivre avec une telle son épouse. Très loin de toute habitation humaine, dans un recoin de ravin, où il faisait plus chaud qu'ailleurs, à l'abri de tous les souffles, ils rencontrèrent un marchand de saintes images qui s'essuyait le front. Il avait posé à terre son panier, tout plein de ces peintures lures au cadre doré qui représentent des saints et des saintes, avec des légendes euscariennes et dont les basques aiment encore garnir leur vieille chambre aux murs blancs. Et il était là, épuisé de fatigue et de chaleur, comme échoué dans les fougères, à un tournant de ces petites routes de montagne qui sont vent solitaire sous des chênes. Gracieuse voulut descendre et lui acheter une sainte vierge. « C'est, dit-elle à Raymond, pour plus tard, la mettre chez nous, en souvenir. » Et l'image éclatante dans son cadre d'or s'en alla avec eux, sous les longues voûtes vertes. Ils firent un détour, car ils voulaient passer par certaines vallées des cerisiers, non pas dans l'espoir d'y trouver déjà des cerises, en avril, mais pour montrer à Gracieux ce lieu, qui est renommé dans tout le Pays basque. Il était près de 5 heures, le soleil déjà bas, quand ils arrivèrent là. Une région ombreuse et calme, où le crépuscule printanier allait descendre en caresses sur la magnificence des feuillets d'avril. L'air y était frais, suave, embaumé de senteurs de foin, de senteurs d'acacia. Des montagnes, très hautes, surtout vers le nord, pour y faire le climat plus doux, l'entouraient de toutes parts, y jetant le mélancolique mystère des Édens fermés. Et quand les cerisiers apparurent, ce fut une gaie surprise. Elles étaient déjà rouges, au 20 avril. Personne dans ces chemins, au-dessus desquels ces grands cerisiers étendaient comme un toit leurs branches toutes perlées de corail. Ça et là seulement quelques maisons d'été encore inhabitées, quelques jardins à l'abandon, envahis par les hautes herbes et les buissons de roses. Alors, ils mirent leur cheval au pas, puis chacun à son tour, se débarrassant des rênes et se tenant debout dans la voiture, ils s'amusèrent à manger ces cerises à même les arbres, en passant et sans s'arrêter. Après, ils en piquèrent des bouquets à leur boutonnière. Ils en cueillirent des branches pour les attacher à la tête du cheval, au harnais, à la lanterne. On eût dit un petit équipage paré pour quelques fêtes de jeunesse et de joie. « À présent, dépêchons-nous !» cria Gracieuse. « Pourvu qu'il fasse assez clair au moins quand nous arriverons à Etchezar, pour que le monde nous voie passer, décoré comme nous sommes. » Quant à Ramuncho, lui, à l'approche de ce tiède crépuscule, il songeait surtout au rendez-vous du soir, au baiser qu'il oserait recommencer, pareil à celui d'hier, en reprenant la lèvre de Gracieuse entre ses lèvres à lui, comme une cerise.